aviez parlé de questions hier, Myriam.
Le contact et l'accumulation. Le contact, oui. C'est l'aspect négatif de cette carte.
Oui. Non. 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 Le contact, c'est un facteur mental. Il n'y a rien de négatif à un facteur mental. C'est simplement si il y a ignorance, le contact va être
vicié,
on va dire.
Et empêcher l'accumulation de karma positif, de mérite, ou va entraîner un karma.
Mais l'idée, c'est que à chaque contact, il y a la possibilité, au mieux, d'accumuler.
D'accumuler des mérites. D'accumuler quoi?
Que ce soit des erreurs, des mérites, que ce soit des choses positives ou négatives, la capacité d'engrammer quelque chose. Comme pour ces erreurs. On pourrait, à chaque moment de contact, hein, donc c'est, on est dans un continuum, il faut toujours voir l'idée de continuum, et les facteurs mentaux qui fonctionnent très rapidement, le contact sensation, c'est rapide. C'est-à-dire, à chaque contact, en quelque sorte, c'est comme au niveau humain, à chaque rencontre, on peut apprendre quelque chose de l'autre, de soi, voilà, c'est ça. Donc, soit on accumule, soit on est focalisé dans ses motivations, etc., mais qui sont associées de distractions, etc. Dans la présence, quoi, être capable d'être présent, de renouer constamment avec l'aspiration, mais en tant que aspiration spirituelle, etc., que tout puisse nous servir comme ça.
Le contact permet l'expérience,
alors. Ah bah, de fait, oui, bien sûr.
Il y a un lien entre les deux.
Bah, le contact précède la sensation, donc expérience. Oui. Hein. Sensation, expérience. Ouais. Oui. Pas de contact, pas d'expérience.
Et après, il y a ce qu'on va en faire, en fait. Et ça, c'est les processus.
À partir de la sensation, bah, il y a aussi les 5 aguillards, hein, perception, tout ça. Mm-hmm. Mais après, la sensation, dans les 12 facteurs interdépendants, c'est la saisie.
La saisie, elle peut se faire à toutes les étapes, non?
À toutes les étapes, tout est baigné d'ignorance. Et à toutes les étapes, effectivement, il y a la saisie sur le samskara, ignorance, soif et saisie, ces trois facteurs perturbateurs, ils sont bien sûr tout le temps là. C'est pas tant une chronologie, c'est logique. La saisie, elle n'attend pas le contact pour saisir. Il y a déjà la saisie de la sensation, la saisie des consciences, la saisie des agrégats, etc. C'est difficile de ne pas le voir comme une chronologie. Mais s'il y a contact, il y aura sensation. Tous facteurs mentaux sont elles-mêmes informations à la conscience. Si les choses avaient une existence propre, effectivement, on pourrait dire il y a A qui amène B, C, etc. Je ne sais pas si le terme systémique convient. On pourrait dire que l'offre fait la fonction. Même le moment d'une conscience, eh ben, il y a contact, il y a une convergence de choses, etc. Donc si il y a contact, il y a sensation. La sensation va être l'objet encore d'une perception, et ainsi de suite. Il y a des facteurs omnifonctionnels. Il y a une trame, et puis après, des petits détails, on va dire. On essaye de donner de l'ordre. C'est déjà pour bien voir les différentes modalités, différentes, comment ça s'exprime, ces fonctions.
Les facteurs omnifonctionnels, on peut les retrouver à toutes les étapes aussi.
C'est ce que ça veut dire, omnifonctionnel. Ils sont tout le temps en fonction. L'intentionnalité, c'est la base. Bon, ce que j'ai écrit, c'est un peu chiadé, peut-être, parce que je m'adresse à des gens qui ont déjà un peu de... qui ont étudié l'Abhidharma, etc. J'ai des nuances pour des traducteurs, vous voyez. Souvent, c'est traduit par intention, et plutôt qu'intention, j'explique les connotations que ça peut engendrer. Et puis, donc, il faudrait mieux prendre intentionnalité. C'est un terme qui est adopté par les phénoménologues. En phénoménologie, on dit il n'y a pas de conscience sans être conscience de. Vous voyez, c'est juste cet omnifonctionnel. Ça veut dire que tout est en dynamique. Il n'y a pas de conscience dans le genre. Il y a une conscience, on en attendrait. Et puis les phénomènes seraient une forme qui appuierait sur un interrupteur qui déclencherait la conscience. C'est pas ça. En phénoménologie, on dit conscience de. Et donc, obligatoirement, tu as une intentionnalité, mais c'est pas une intention. c'est pas intentionnel, c'est pas volitif, c'est une finalité inhérente au fait de la conscience. Le problème, c'est qu'on voit en chose de conscience quelque chose comme étant de la conscience. C'est très difficile. Il n'y a que par la contemplation qu'on voit le fonctionnement. Après, on en parle à nouveau avec des conventions, des mots. C'est pratiquement synonyme, oui. Comme esprit, l'âme, le souffle. L'esprit, c'est un terme générique. Enfin, dans notre enseignement. Mais des fois, dans certaines écoles, on dit Rig par connaissance. Comme dans nos philosophies, le gnose. Après, avec toute cette différence de mots, eh ben, il faut connaître les fonctions auxquelles ces mots se rattachent. Donc l'esprit, c'est un terme bastout. C'est juste un nom pour dire qu'on est doté de connaissances. C'est la faculté de connaître. Connaître, science, savoir. Mais à part ça, esprit ne désigne pas vraiment une fonction, alors que conscience est plus facile pour nous à comprendre peut-être. Donc l'esprit, c'est le fait qu'il y a une faculté qui est d'ordre spirituel, donc d'ordre mental. Ce qui est spirituel, ça veut dire que c'est pas tangible. C'est pas botanique, c'est pas biologique, c'est pas de l'os, c'est pas de la chair, etc. C'est pas de l'atome, c'est de l'esprit. C'est un terme qui signifie que c'est subtil, c'est pas de l'ordre de la matière. Et ensuite, on se rend à l'évidence, ce n'est donc pas quelque chose, ce n'est pas situable. N'empêche qu'on voit bien qu'on sait, on se sait être soi, pas l'autre, on se sait entendre, on se sait penser, etc. Donc tout ça, on lui met un mot, esprit. C'est d'ordre spirituel. C'est d'ordre spirituel. Essayer de localiser une pensée, même le son, l'audibilité. Peut-être de façon cérébrale, mais de façon cérébrale, tu vois l'effet, mais la nature du son, la nature de ce qui fait cette faculté, tu ne le trouveras pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Et cette nature est vide. Des fois, dans les textes de méditation de Vipassana, réaliser Vipassana, c'est être là où on ne trouve pas. Et c'est cela où il ne faut plus te douter, reste là, c'est cela. L'éveil. C'est-à-dire que tu coupes toute tentative pour te dire que tu trouves, c'est d'avoir quelque chose. Notre fonctionnement, c'est je cherche pour trouver quelque chose. Et si je trouve quelque chose, ce quelque chose me fait dire que j'ai trouvé. Dans l'enseignement bouddhique et d'autres enseignements, c'est là où tu ne trouves pas. À ce moment-là, tu es dans le mystère. Et à un moment, il y a un réflexe où tu retrouves ta saisie. Parce qu'on pourrait dire que tu es en contact même du mystère, mais ce contact, tu en ignores que c'est le contact-là, c'est juste ça qu'il fallait trouver, ce contact. Et à nouveau, saisie, et puis sensation, et ainsi de suite, et sensation et saisie, et ainsi de suite. Donc dans la façon de dire, dans le Vipassana, on dit là où rien ne se trouve. Donc il n'y a pas quelque chose, il y a le sujet qui est dans cet état de là où rien ne se trouve, et c'est très difficile de demeurer, parce qu'on a toujours eu des habitudes depuis des temps sans commencement, qu'il y a quelque chose qui me prouve que je trouve, et me prouvant moi. Donc l'esprit, c'est juste une nature, enfin c'est juste un nom qui ne se trouvera pas, parce que c'est pas quelque chose, même si on utilise en grammaire un substantif. C'est une nature spirituelle, et donc ça ne se trouve pas. Et n'empêche, cette nature spirituelle, on pourrait dire intangible, enfin voilà, cette nature a une faculté qui est, ça c'est évident, de savoir. C'est cette nature-là. certaines personnes disent le savoir, le fait que le savoir, c'est des phénomènes chimiques. Mais le phénomène ne prouve pas qu'il n'y a pas de nature, cette nature mystérieuse. Une faculté inhérente, continuum, etc. Les phénomènes observés, scientifiquement parlant, ce ne sont peut-être que des effets. On n'est témoin que d'effets, jamais témoin de cause. Quand on observe quelque chose, c'est toujours l'effet, et on ne peut que supposer la cause. Tu vois un arbre, c'est l'effet que tu as. Tu peux supposer que cet arbre, oui, par expérience, elle vient d'une fleur, d'un fruit, enfin d'une graine, et ainsi de suite. Mais tu n'es jamais observateur de la cause. Et puis même quand un jour tu dis, si j'ai une graine, oui, mais c'est encore à l'effet. Plutôt que causalité, il faudrait dire, on est toujours dans une effectivité. On constate que des effets. Et la science n'observe que ça. Et nous-mêmes, quand on est en connaissance, on est en connaissance d'un effet. C'est la seule présence, trouver la cause d'un effet, c'est être en la cause. C'est ça l'idée, c'est le mystère. C'est-à-dire en la cause qui fait que j'entends. Et bien, on est obligé de passer d'abord, de ne pas trouver quelque chose comme une cause, et c'est une nature. Et cette nature est l'union de clarté et vacuité. Et la cause au niveau de l'esprit, c'est un continuum de clarté, d'auto-révélation. Parce que c'est dans la nature de l'esprit d'être dans une auto-révélation, mais quand on est dans... on est témoin de cette auto-révélation, on ne voit que les faits. Un peu comme voir que l'écume d'une vague. Vous me suivez ? Donc on dit, au niveau de l'esprit, c'est une suite de clarté, vide d'une chose en soi. Et parce que c'est vide d'une chose en soi, le moment suivant de cette clarté, c'est encore de la clarté vacuité. C'est un continuum de clarté vacuité, c'est ce qu'on définit par l'esprit. Et cette clarté n'a pas d'origine. Elle n'est pas née. Elle n'est pas l'effet de quelque chose. Elle est une nature ultime, clarté, vacuité. Ça, c'est difficile à comprendre. Il faut déjà l'entendre, voilà, etc. Pour savoir ce que n'est pas. On ne peut définir que ça. Et c'est une suite de clarté, vacuité. Mais non pas, justement, de cause à effet. Là, on est vraiment dans la nature primordiale. Ce n'est pas une suite de cause et d'effet, c'est une effectivité. Ce n'est pas tant une suite de cause et d'effet, c'est un continuum de clarté et vacuité. Et quand on y est, on ne trouve pas, parce que trouver, ça voudrait dire être l'observateur d'un effet. Si tu es observateur d'un effet, tu auras le son, qui est apparence vide, mais l'ayant trouvé comme étant quelque chose, tu auras le sujet qui se persuadera d'être celui qui entend, en soi, ainsi de suite. Et donc tu ne verras pas ce mystère de clarté vacuité. Si l'esprit n'était pas une suite de clarté vacuité, de nature de clarté vide, de réalité propre, il serait un effet, il y aurait donc une cause qui ferait naître un effet. Et donc l'esprit serait né, et ça veut dire qu'il périrait. Naissance, vieillesse, mort. Et cette faculté, alors c'est une pure affirmation, on ne peut que faire qu'y croire, hein. Mais on peut y croire et puis être curieux de l'expérimenter. Bien sûr qu'on part tous sur une croyance, mais on ne se maintient pas sur une croyance. On ne vit pas sur les croyances, on vit sur des expériences. En tant que bouddhiste, si on a aspiré à l'éveil, c'est pour faire l'expérience, c'est pas pour croire. Donc, mais on part obligatoirement par une croyance. Et puis les affinités karmiques, cette croyance me convient bien, voilà, je vois, par cette croyance, cette affirmation, j'y vois la seule façon d'exprimer ce qu'est l'esprit, j'y vois aussi la possibilité de m'éveiller comme je l'entends, qu'est-ce quoi l'éveil, etc. Enfin, tu vois, les formules, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, par affinité, ça répond à des aspirations, qu'on a accumulé depuis des vies, voilà, etc. Et Donc, sur la base de cette croyance, après, ben, on se destine à expérimenter, donc méditer.
Tout à l'heure, tu as fait le lien entre expérience et sensation.
C'est la même chose. C'est une façon de traduire. Tsorwa en tibétain, c'est traduit expérience. Hein, on est un continuum d'expérience. Dans le Sajja, on affirme que cette expérience était un continuum de félicité vide, simplement sur la base de l'union de quartier vacuité. Si on reste dans le mystère de l'union de quartier vacuité, il y a une félicité. Certains appelleront ça Dieu. Dans Dieu, il y a dit, hein, quartier. Le E, je ne sais pas trop pourquoi ça tourne, mais on pourrait dire vide. La vacuité, la métaphore biblique, c'est mystère, c'est tout. La vacuité est un mystère, c'est un mystère. Parce que c'est vide de réalité propre, ça apparaît. C'est le mystère de la création. Nous, on dira mystère de la création. Donc, un continuum d'expérience, et dans le Sahaja, si on reste dans le contact d'apparence-connaissance, chacune d'entre elles étant vide de réalité propre, l'assimilation de ces deux réalisations de vide fait qu'on est en contact. Il n'y a pas lieu de trouver quelque chose comme un effet qui fait expérience, une cause, machin, etc. Et on est dans l'unification de l'expérience qui est la coémergence de félicité vacuité. Le Sahaja est vraiment très précis, enfin à mes yeux. En quatre lignes, on définit l'éveil. Il n'y a pas besoin de mettre un humanoïde avec des auras, etc., etc. Alors ça peut décevoir les gens, d'autres personnes, ils aimeraient bien que ce soit un Bouddha qui s'assoit, qui attend dans un paradis qu'on meurt pour nous recevoir. Ça c'est, voilà, c'est chacun ses capacités et ses aspirations, voilà. Ça finira par s'éveiller, hein, de toute façon. Alors vous avez fait Amitabha, hein, la seule aspiration de renaître en dévoi de chaîne, même si c'est au pied d'un Bouddha rouge, ça fonctionne. Parce qu'au moins, pendant cette aspiration, on n'établit pas le samsara, des mécanismes de saisie. La foi va, en quelque sorte, la foi va remplacer la soif. C'est presque un anagramme. La foi, le charbonnier, on va dire, remplace la soif. La soif, c'est une peur. La foi est une non-peur. Parce qu'on est tellement focalisé, on n'a pas peur. Donc rien que la foi est un facteur mental, c'est un facteur mental vertueux, qui, si on dirige bien ça, on est bien focalisé au moment de sa mort des Wachen, ça fonctionne. Le fait que ce qu'on appelle esprit est un continuum de clarté et vacuité, il n'y a pas eu un moment zéro où cette clarté serait née, créée, c'est-à-dire une cause, et la clarté serait un effet. Alors dans l'école Sahaja, dans l'école Shentong, tout ça, la clarté fait partie d'une nature ultime parce qu'elle est dans la coémergence de vacuité. On ne peut pas l'espérer. Dans d'autres écoles, comme chez les Gelupa, Madhyamika, on pense que seule la vacuité est l'ultime et la clarté est relative. Parce qu'ils pensent que la clarté, c'est justement, ça se présente par l'effet. Ça serait clarté, le fait de voir, d'entendre ces phénomènes. Mais ils s'en tiennent que la magie de rendre un effet. La clarté, c'est l'apparence, mais l'apparence prend des aspects. Et nous, l'effet, c'est l'aspect, mais pas l'apparence. Au sens, bien sûr, que je voulais expliquer. Pas au sens français du mot, bien sûr. Voilà. Namparnangze, Verukana, ainsi de suite. Donc le fait que l'esprit, hein, ce qu'on appelle l'esprit, est un continuum, c'est même plus de cause à effet. D'accord ? C'est un continuum de clarté vacuité. On peut parler d'un instant, d'un autre instant, mais il n'y a même plus d'entropie, il n'y a pas de temporalité. Mais on parle bien d'un continuum. Le fait même que donc, cette clarté vacuité, et surtout ce terme-là, clarté, n'est pas l'effet d'une cause. C'est l'affirmation, par exemple, que rien, même pas la matière, peut créer l'esprit. Ça va ? Et la matière, bien sûr, comme nous on l'entend, une matière biologique, donc le corps ne crée pas l'esprit. Et l'esprit n'a pas besoin de biologique pour être créé, parce qu'il est un continuum de clarté vacuité. Déjà, le comprendre, ça permet de Bah, lâcher prise, c'est bon, quoi. Et puis les autres phénomènes sont annexes. Et puis si on reste dans le lâcher prise, la non-production, le contact non-production, etc., etc., ce qui est annexe sera juste, comme dans la Bible. Cela est bon, juste, que cela soit. Dans la Bible, on parle de le grand ordinateur, ordonnateur, qui a donné le mot ordinateur, Dieu. Le grand ordinateur, le grand architecte dans les francs-maçons. La façon d'être un grand ordonnateur dans la tradition juive, c'est on dit que Dieu se retire. L'union de clarté d'acuité se retire des mécanismes de cause à effet, parce qu'on a confiance que si tu te bases sur ce mystère clarté d'acuité, la phénoménologie des choses seront dans la justesse. La lumière apparaît à Dieu, c'est l'effet. L'effet, non pas la lumière, c'est l'aspect pour nous, nam. C'est pas la clarté, c'est nam, l'aspect. Il y a un aspect, c'est bon, c'est pas un censureur, un contrôleur, il reste à l'évidence que cela soit. Donc ce contact fait qu'on en tient à il y a, que cela soit. Que cela soit sensation, expérience, mais où tu ne trahis pas cette demeure, cette nature de clarté vacuité. Donc l'esprit, c'est cela, c'est un terme, on désigne une nature coémergente de clarté vacuité, non née, non située, non cessant, parce que c'est pas, comme on l'entend, une suite de causes et d'effets, une cause qui créerait un effet. Et s'il y a une causalité, elle participe de cette nature de clarté vacuité. Sous prétexte qu'il y a clarté vacuité, éventuellement il pourrait y avoir une causalité. La reconnaissance de cela, de cette nature d'esprit, on parle de science. Si on le sait, si on ne sait pas. Donc gnose ou ignorance. Et là, on ne prend plus le mot conscience, mais plus particulièrement science. S'il n'y a pas d'ignorance, c'est science, gnose. On retire le con de conscience et on a science. Cette science, c'est cette capacité, justement, de réaliser, pas d'expérimenter, mais d'être en même, cette nature de clarté vacuité. Et donc, c'est, en quelque sorte, c'est science, science de l'esprit. Et cette science étant sur la base de nature clarté vacuité, on connaît le mystère de cet esprit, qui est l'union clarté vacuité. En utilisant une faculté qui est propre au fait d'esprit. Sinon, l'esprit deviendrait l'objet de science. À nouveau, on ne connaîtrait qu'un phénomène, un effet. Donc c'est pour ça que des fois, les énigmapas disent « rong rik ». Rik, c'est science. C'est traduit souvent par connaissance. Rong, par soi-même. En auto, c'est très difficile d'expliquer « rong rik ». C'est-à-dire à même la connaissance, sans qu'il y ait lieu quelque chose qui nous donne le sentiment de ça déclencher la connaissance. Et donc on n'a pas l'idée d'un objet, ni d'un sujet,